La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission. La semaine ne fut-elle pas trop longue pour attendre la suite de l'histoire de la jeune fille au long nez? L'on nie qu'elle garda toute sa vie. Alors, le héros de cette histoire est orphelin, jeune. Il décide de mettre le chemin sous ses pieds pour aller à la découverte du vaste monde. Et il avait ouï dire d'un pays renommé pour ses gourmandises et sa princesse gourmande et jolie. Il voulait s'y rendre. Chemin faisant, il s'arrête à un moulin où une jolie fille au cœur simple pleure. Elle vient de perdre son père et une pièce du moulin est cassée. Il répare et pour la remercier, elle lui offre trois objets dont elle ignore les pouvoirs magiques. Une bourse vide qui se remplit toute seule, une ceinture qui vous transporte là où vous voulez et un corps de chasse qui vous amène des dizaines et des dizaines de gardes ou de soldats selon les circonstances. Donc il découvre, il fait ses découvertes lui-même et il est enthousiaste et il se rend donc à ce pays des gourmands et de la princesse jolie. Dès qu'il la voit, il tombe raide amoureux. Et avec sa bourse magique, il a château, invite la princesse très maligne. Il perd de l'argent, elle en gagne en jouant. Et lorsqu'elle voit cette bourse magique, elle a des soupçons. Pour rentrer dans le château de son père, elle invite le jeune homme dans son carrosse. Et là, elle l'entreprend. Elle lui estorque sa bourse magique et lui claque la porte au nez. Le lendemain, grâce à son corps magique, le corps dans lequel il souffle, il lève une armée pour récupérer sa bourse et elle l'entreprend une fois de plus, elle l'amadoue et à nouveau lui promet fiançailles. Et lui, crédule, il la croit, il croit entendre lui-même ses cloche qui lui tourne la tête. Le voilà tout éperdu, tout en confiance, tout abandonné à cette demoiselle, parce qu'elle, la fine mouche, se doutant bien de quelque autre mystère, elle l'a entrepris sur ses soldats. Comment se fait-il qu'en si peu de temps il ait levé une si belle troupe? Il y faut encore de la magie. Puisqu'ils sont pour être mari et femme, ne doivent-ils pas partager leurs secrets? Et lui, oh, qu'il était jeune et sans méfiance, lui ne va-t-il pas lui faire part du sien? Il tire le cornet de sa chemise, il le montre, il raconte. Elle, lorsqu'elle sait que ce garçon n'est ni fils de roi, ni grand seigneur, et qu'il a cru pourtant devenir son mari. D'orgueil et de fureur, elle manque d'étouffer. Pleine d'envie aussi, à l'idée du cornet merveilleux. Ce n'était pas seulement l'avarice qui la mordait, la gourmandise qui la tenait. C'était l'envie, l'orgueil et la colère. Comme une chaîne d'or, cette fille du roi avait autour du cou les sept péchés mortels. Elle se contint cependant. Elle n'avait pas lâché la bourse. Et comme par jeu, elle étendit la main, se saisit du cornet, y souffla une fois, deux fois, trois fois et encore. Assez de fois pour avoir une troupe plus forte encore que celle du garçon. Et lui, à force d'être amoureux. Qu'il était bête. Cela passe la permission tant de bêtises. Il admirait la bonne grâce qu'elle avait à souffler dans ce cornet. Jusqu'au moment où, ne prenant plus la peine de feindre, elle lança sa troupe. Un moment, tout change. C'est bien juste si le garçon peut échapper, s'en tirer, sans perdre la vie. Elle aurait fait tuer aussi allègrement qu'on écrase une mouche. Il se cacha dans un pommier au fond du clos. Bien lui en prit de savoir grimper. Et là, sur la branche comme l'écureuil, il attendit la nuit. Est-ce bien Dieu possible m'avoir trompé de la manière, moi qui aurais de bon cœur donné mon sang pour elle? Il ne faisait que tourner et retourner cela. Il en aurait séché d'indignation. Ah, si je la tenais maintenant, je crois que je l'égorgerais de cette lame. Que ne suis-je au fond de sa chambre? À peine le souhait formé, il est réalisé. Car le garçon était ceint de la ceinture et il n'y pensait pas. Sa lame à la main, il se trouve en la chambre de la demoiselle, à côté de son lit. Elle s'éveille et là devant les yeux, furibond, prêt à lui couper le cou. Hélas, vous m'en voulez. Je désirais seulement voir si ces soldats surmonteraient les vôtres. Pourquoi vous êtes enfui? Me jugez-vous de mauvais cœur? Au lieu de reprendre bourse, cornet et de disparaître aussitôt, il était là, roulant les yeux et se demandant ce qu'il devait faire. Point encore arrivé tout à fait à comprendre qu'il n'y avait aucune confiance à avoir en cette demoiselle. Oh, la bête, la bête, la bête qu'il était! Oh, même s'il y avait faute, ne pourriez-vous me la remettre? Ah, je vois bien que vous ne m'aimez guère. Oh, le traître! Tout de suite, il a mal pensé de moi. Et si je ne souhaitais ces soldats que pour être sa reine, dans son royaume, au bout du monde? Cela donna une idée au garçon. Il la prend des deux bras. Il souhaite, comme elle, d'être au bout du monde avec elle. Les y voilà, dans la minute, là où le monde s'arrête. Il y finit en queue, fermé par les rochers, barré, bouclé. Après quoi, plus rien. Mais la fille du roi n'allait pas s'amuser à contempler ce bout du monde au clair de lune. Si confondue qu'elle fût, sa malice ne la quitta pas. Elle était dans les bras de l'autre. Elle y resta, et en un moment, elle sut lui donner d'abord un grand repentir d'avoir voulu la tuer, ensuite un grand désir de se racheter, en prouvant à sa belle qu'il se fiait tout à elle. Ainsi lui fit-elle dire le secret de la ceinture. Qui s'abuse une fois n'est pas condamné, deux fois pas encore. Mais celui qui trois fois tombe dans le même panneau, celui-là mérite qu'on lui attache une queue de renard au collet et qu'on le mette hors de cause à coups de pied au derrière. Pour montrer au garçon comme elle était touchée de sa confiance, la demoiselle lui fit un doux baiser. Par curiosité, cependant, elle voulut voir la ceinture. Le temps de dire pipe, elle la dénoua, s'enseignit sur elle-même. Et comme elle avait souhaité être dorée chef en sa chambre, elle y fut. Et le pauvre garçon se trouva seul au bout du monde. seul, sans sa bourse, sans son cornet, sans sa ceinture, sans aucune ressource, sans espoir aucun. Si démonté pour le coup, si abattu de chagrin qu'il ne sut que tomber au pied d'un arbre, le cœur crevé par la perfidie de la demoiselle, il se prit à verser de grosses, grosses larmes comme des pois. Et sous l'ombrage, si bien l'accablèrent et sa détresse et sa fatigue, qu'il finit par s'endormir. Combien de temps a-t-il dormi ? Une nuit ? Un jour et une nuit ? Un jour et deux nuits ? On peut le croire, car lorsqu'il s'éveilla au grand jour, il mourait de faim. Quelle fringale ! Il aurait donné tout au monde, même la demoiselle et ses belles façons, pour une de ces soupes de maçon où la cuillère se tient droite. Mais il était au bout du monde et pas de soupe. Il ne s'était rien mis sous la dent depuis le moment qu'il avait joué aux cartes avec elle. Coûte que coûte, il lui fallait manger. Alors il s'avisa que l'arbre sous lequel il avait dormi portait des pommes. Point tout à fait pommes, mais aussi rouges que pommes peut-être rouges. Rondement, il en abattit 5 et tout aussi rondement, les croqua. Il aurait juré que jamais il n'avait rien mangé de meilleur. Par leur goût, ces pommes passaient tous les fruits des vergers. Et il aurait dû pourtant s'en défier un peu. Sitôt ce repas de semble-pomme fini, il sent au bout du nez une démangeaison. Le nez se met à lui pousser. Et lui pousser comment ? D'un pied, pour chaque pomme ? Le malheureux, il lui fallut aller avec ce bout d'un nez qui traînait jusqu'à terre. Eh ben, voyez, la trahison de la demoiselle l'avait tellement chaviré que le reste ne lui était rien. Il avait mis 5 autres de ses pommes en une de ses poches avant de savoir leur vertu. Il ne les jeta pas. Cependant, avec ce nez qui brinque-ballait, ce jour-là, il n'alla pas loin. Sur le soir, il s'arrêta sous un autre espèce de pommier qui portait d'autres semble-pommes, mais celle-là, plus jaune que l'or. Le garçon était payé pour se défier des fruits en ce pays du bout du monde. Mais quoi, il fallait bien qu'il mangeât. Et puis, du moment que la fille du roi lui avait joué ce tour affreux, les semble-pommes pouvaient bien lui jouer celui que voudrait. Quand elle devrait me faire pousser des oreilles d'âne, il cueillit une pomme jaune, la croqua, et si bonne à croquer, il s'aperçut que le nez lui redémangeait. Mais cette fois, pour raccourcir, de tout un pied, il raccourcit. Le garçon croque une deuxième pomme. Elle a pareil effet. De même, une troisième pomme, puis une quatrième. À la cinquième, le nez reprend au milieu de la figure sa vraie façon de nez. Sur une sixième, sans doute, qu'il lui aurait rentré dans la tête. Revoilà donc un nez comme en ont les personnes. Et quoi qu'il se fût dit, le garçon en fut aise. Toutes ces aventures, cependant, lui avaient ouvert les idées. Il abat 5 des pommes jaunes. Il les fout en une autre poche. Et de son pied leste, il repart pour le pays de la demoiselle. La route était plutôt longue. Les semble-pommes, pourtant, ne verrent pas à pourrir. Aussi fraîches qu'au premier jour. Aussi rouges, aussi jaunes. Mais le garçon se donna bien garde d'y mordre. Il avait son idée. Plutôt que de toucher à sa provision, il eût mangé des glands. Il vécut du fruit des buissons. Enfin, il arriva au pays des gourmands. Et là, il put manger comme mangent les personnes. Va pour se refaire. Eh, il avait un petit compte à régler. Il ne l'oubliait pas. Il s'habille en manière de roi mage. Il se passe la face et les mains à la suie. Puis, un dimanche, à la sortie de la grand-messe, ayant mis les pommes rouges dans une corbeille, il va les crier sur le passage de la fille du roi. Il la savait gourmande. Et la voilà curieuse, autant qu'un matou qu'a senti la souris. Elle vient à ses sembles pommes, elle les flaire. Le prétendu nègre montre sur ses doigts qu'il en demande 5 pièces d'or. Mais sitôt le marché fait, il se tire de là. Il savait que dans le quart d'heure, il ne ferait guère bon ici pour le marchand. De fait, ses pommes si friandes, la fille des croix du roi les croque l'une sur l'autre. Et le nez se met à lui allonger jusqu'au creux de l'estomac. Et au deuxième croque, jusqu'au genou. Et au cinquième croque, jusqu'à ses pantoufles. Elle s'y recueillit toujours en sa beauté et qui prenait tant de plaisir à faire l'ange. Se voir avec ce nez, imaginez quelle fureur! On cherche le nègre qui ne se trouve plus. On envoie acquérir des médecins, des apothicaires, mais de remède, aucun. La demoiselle, elle en aurait dansé comme un coq sur des braises. Si on ne lui enlevait pas ce nez, elle allait mourir. Elle était très en colère. Le roi, pour faire quelque chose, fit pendre 6 des médecins et autant des apothicaires. Le troisième jour, on vient dire qu'un sorcier est là, qui veut parler. Entre une sorte de mort, tout brun de peau et barbu comme un bouc, que coiffe un chapeau de verveine. De sa souquenille, il tire une pomme plus jaune que l'or et fait savoir que la demoiselle sera délivrée de son infirmité si elle la mange. On montre au sorcier, d'une part, un sac d'argent, et de l'autre, une corde. On lui remettra l'un en main ou on lui passera l'autre au cou, selon que son remède agira ou n'agira point. Il dit qu'il le veut bien et présente de réchef la pomme d'or. La demoiselle se décide à la manger et oh la merveille! Son nez diminue d'un bon pied tout aussitôt. Votre nez aurait dû redevenir ce qu'il doit être, dit le sorcier en approchant. Il faut qu'ait été empêchée la vertu du remède. La demoiselle aurait-elle sur soi quelque trésor qu'elle ne devrait pas avoir? En ce cas, qu'elle me le remette. Nous essayerons une deuxième pomme. Sa beauté et sa figure de toute belle, c'était encore le trésor qu'elle préférait à tous les autres, cette fille. Elle tire la bourse magique de son corsage, la tend au sorcier. Lui prend la bourse, la met dans sa poche. Et il sort une deuxième pomme. La lui tend, elle la mange, le nez raccourci d'un pied. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre de prix que des tiennes sans droit, la demoiselle. Mon Dieu, dit-elle, oh, si peu que rien. Alors, oh, ce cornet de cuivre que j'avais gardé par mégarde. Elle tend le cornet, reçoit une troisième pomme, la mange, voit son nez raccourcir, mais restait encore 2 pieds de trop. Et le sorcier de reprendre son refrain. Faut qu'il y ait quelque chose de pris que détienne sans droit la demoiselle. Ah, fit la demoiselle, j'oubliais, oui, oh, si peu de choses, une sale vieille ceinture que j'ai là sous ma robe. Elle s'en défait, le garçon la passe autour de soi. Depuis qu'il avait vu la fille du roi, avec ce nez ballant comme une saucisse, et ses yeux rouges, et cet air de furie, il était tout délivré de ses chaînes d'amour. Il ne sentait plus qu'une envie, de rire comme à la farce. Il regardait donc la demoiselle manger la 4e pomme, et n'ayant pas plus de fiel qu'un pigeon, il tenait en sa main la 5e, tout prêt à la lui tendre, car tout un pied de nez encore pendait à ce visage de princesse. À ce moment, elle regarda aussi le sorcier. Elle ne le reconnut pas sous son brou de noix et sa barbiche de bouc, mais elle s'avisa de son envie de rire. Furieuse comme une chatte, elle décida que dès que le remède aurait opéré, on passerait à l'homme, pour prix de ses services, non pas le sac d'argent, mais la corde de chanvre. De cette belle pensée vint le reflet sur sa figure. Sans la deviner tout à fait, le soi-disant sorcier frémit. Tout lui revint. Il vit à plein la fausseté de la demoiselle. Oh, qu'il ferait meilleur, se dit-il, d'être près de quelque bon naturel de femme. C'était un vœu. Eut-ce en effet la ceinture magique? Le garçon se trouva avec sa pomme dans la main, dans le moulin, près de la petite meunière à laquelle il pensait peut-être sans le savoir. Celle qui avait l'air si bon, si vrai, qu'on aimait la regarder. Et la belle princesse resta dans son château avec pour le reste de sa vie ce nez qui lui pendait jusque sur le menton. Le garçon ne pensait plus guère à la fille du roi. Cette même saison, la fille du moulin et lui se marièrent. Sans temps chercher, ils vécurent heureux. Ils n'eurent plus besoin de la bourse, du cornet, de la ceinture qu'ils cachèrent dans le coffret sous la pierre. Et c'est ainsi que se termine le conte. Et peut-être que maintenant, lorsque vous entendrez croquer une pomme, vous l'entendrez plus tout à fait de la même façon. Chères auditrices et chers auditeurs, merci de nous écouter. Merci à la technique. Et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.